Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous et merci d'être ici ce soir pour la conférence de Monsieur Arnaud Brejon de Lavernier, que nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois. Pour sa présentation, je ferai une présentation succincte, tant Monsieur Brejon est connu de nous tous. Je rappellerai simplement que Monsieur Brejon est docteur en histoire de l'art, qu'il a été pensionnaire de l'Académie de France à Rome, spécialiste de la peinture du XVIIe siècle et des peintres caravagesques français en particulier. Il a commencé sa carrière au musée de Louvre, aux côtés de Michel Laclotte. Ensuite, il a été nommé directeur du musée des Beaux-Arts de Lille, puis du musée des Gobelins, en charge pour M. Brejon de restructurer, de moderniser ce musée et d'y organiser des expositions de grande ampleur, ce qui lui a permis de renouer avec son siècle de prédilection, le XVIIe siècle. Monsieur Brejon a consacré toute sa carrière à l'État et aujourd'hui, libéré de ses fonctions officielles, il peut enfin se consacrer à la recherche. Il travaille actuellement sur Simon Vouet et puis il est notre invité ce soir et nous en sommes très heureux. Pour la conférence de ce soir, Monsieur Brejon a choisi de nous parler d'une enquête policière, 30 tableaux du XVIIe siècle, en quête de paternité. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et je voudrais remercier une fois de plus Monsieur Brejon d'être ici ce soir. Et je voulais quand même vous dire que notre prochaine conférence, c'est le 20 mai avec Kira d'Abulquerque qui va nous parler de Pietro da Cortona et des fresques du Palazzo Pitti. Et puis ensuite, notre dernière conférence, Cézanne. Merci. Ah! N'oubliez pas les téléphones, bien sûr. Vous préférez le micro comme ça ?
Non, comme il est mis.
Ah, d'accord, d'accord.
Voilà, merci. Merci, présidente. Merci pour les mots d'accueil, donc si chaleureux. Merci beaucoup, j'aime toujours venir à Bordeaux. Bon, je ne peux pas saluer tout le monde, mais il y a votre jeune nouveau conservateur là au premier rang, au Musée des Arts Décoratifs, M. Massel Épinay, que je salue, M. Jacques Sargos dans le fond, voilà, diverses personnes, pardonnez-moi de ne pas toutes vous citer. Alors, ce soir, c'est une conférence difficile, c'est comme si j'allais m'excuser, mais elle est très difficile, et puis, je vais vous réveiller un petit peu, et c'est pas des... Voilà, c'est pas des choses évidentes, hein. Le Parthénon ou une sculpture de Michel-Ange ou un tableau de Manet ou de Monet. Non, c'est une conférence difficile et que j'ai eu le plaisir de prononcer à Besançon. Il y a une société d'amis des musées Besançon extrêmement vivante que j'aime beaucoup. La présidente a une personnalité tout à fait parallèle à celle de Madame Massincal, donc c'est toujours un plaisir donc d'aller et à Bordeaux et en Franche-Comté. Et puis la conférence, donc c'était bien passé. Donc ce soir, ça devrait bien se passer également. Mais vous allez voir, c'est quand même très difficile. Et on va essayer de réfléchir ensemble. On va essayer de réfléchir ensemble sur l'œuvre d'art. Cette conférence. C'est le titre d'une exposition qui aurait dû avoir lieu au musée de Lille. Madame Massincal très gentiment a rappelé que j'étais le directeur de ce musée des Beaux-Arts, le deuxième musée de France après le Louvre, pendant 15 ans, de 1988 donc à 2003. Il y avait la rénovation, et puis quand le musée est rénové, bien, il faut organiser des expos temporaires. Hein. C'est un petit peu maintenant, c'est un petit peu obligatoire pour fidéliser le public, attirer un nouveau public, et puis donner donc l'image donc d'une institution vivante. Moi, j'étais à Bordeaux aujourd'hui, ben, j'ai pu voir l'exposition tout à fait intéressante donc à la galerie donc des Beaux-Arts sur le thème donc des bacchanales. Et le maire de Lille m'avait demandé donc une fois rénové d'organiser. Il disait ceci, d'organiser de grandes expositions temporaires, de grandes. Alors j'ai eu la chance de faire coup sur coup Rubens, Goya, Berthe Morisot. Ça, on est entre 1997 et 2003, ça me semble vraiment hier ou hier soir. Et j'avais proposé à la mairie de Lille, à la municipalité, cette idée d'exposition « Chien perdu sans collier ». C'était un projet d'exposition d'un grand historien de l'art, hein, que M. Massad Épinay au premier rang donc, a bien connu, et qui est décédé malheureusement, professeur au Collège de France, le plus grand 17e-iste donc des années récentes. Et puis l'exposition n'a pas été acceptée par la mairie. Mais rien de grave, hein, c'est, la vie continue, on ne va pas se mettre en berne. Ces musées sont municipaux, c'est des décisions, c'est des budgets, c'est important. Et l'exposition donc n'a pas eu lieu et peut-être qu'elle se fera un jour. Cela ne vous a pas échappé, chien perdu sans collier. Alors, votre présidente a dit tableau en quête d'identité, mais elle a parfaitement résumé hein, le propos de cette conférence, de cette exposition virtuelle qui n'a pas eu lieu. C'est des tableaux en quête d'auteur, donc en quête d'identité. Et ça ne vous a pas échappé que Jacques Tuilier, qui était un agrégé de lettres classiques, un normalien, un homme qui avait choisi les humanités, eh bien, était très cultivé et il emprunte, eh bien, ce titre à un livre qui était très célèbre autrefois dans les années 50-60, qu'on lisait dans les collèges autrefois, Chien perdu sans collier, le livre de Gilbert Cesbron. Le livre est moins connu maintenant. Et puis Tuilier, qui est toujours avec beaucoup d'humour, toujours très cultivé, eh bien, il avait donné donc le titre du livre donc à cette exposition. Alors, on va voir maintenant la conférence va se dérouler en deux parties. Alors, je crois que c'est comme au théâtre, il faut couper les portables. Et puis, en plus, si vous voulez, pour la concentration, pour se concentrer, pour l'attention, c'est capital hein, de ne pas être distrait. C'est en deux parties. Premièrement, je vais vous lire le propos de Tuilier. Tuilier m'avait donné deux pages d'appel à la machine. C'était un peu court, malheureusement, mais quand même, par les discussions que j'ai eues avec lui, je reconstitue parfaitement le projet. Et puis, dans la deuxième partie, eh bien, on va réfléchir hein, ensemble. Un tableau anonyme. Alors, je vais parler plus de tableaux. On pourrait faire la même exposition pour les dessins ou pour les sculptures. Et là, on se cantonne dans l'art occidental. Alors, Tuilier était un 17e-iste. Il aurait pu prendre des tableaux du 16e, du 15e. Il y a beaucoup de primitifs italiens. Mais Tuilier, on travaille bien dans le domaine que l'on connaît. Et Tuilier avait choisi donc le 17e et plutôt italien. Et la deuxième partie de la conférence, c'est ce que je voulais dire un instant, on va réfléchir. Hein. Pourquoi un tableau est anonyme? Est-ce qu'il a la chance eh bien, d'être pouvoir un jour attribué? Quels sont les critères qui permettent une attribution? Je vais vous parler de l'œil, de la mémoire visuelle. Je vais m'inspirer donc d'un texte d'un neurobiologiste, ancien professeur au Collège de France, donc Jean-Pierre Changeux. Et puis, on tirera donc une conclusion. Alors, la conférence, elle va être lue, mais elle ne sera pas pour autant scolaire. Mais elle est préparée, il y a un texte. Parce que ce texte que je vais vous prononcer ce soir, de la façon la plus vivante possible, sera publié dans un hommage donc à Jacques Tuilier. On a huit auteurs, huit chercheurs, huit historiens d'art ont été sélectionnés, donc dont moi-même. Et c'est ce que je vais vous lire ce soir. Mais ce texte sera publié dans une petite année. Alors ayons pendant la bonne heure qu'on va passer ensemble. Donc ayons en tête cette phrase de Jacques Tuilier, je vais beaucoup le citer ce soir, mais c'est son projet, hein, c'est pas le mien, et moi à Lille j'aurais été chargé de le mettre en œuvre. Tuilier dit ceci, j'ai souvent rêvé sur le cas de ces chefs-d'œuvre anonymes, sans lieu ni date, dont la perfection est manifeste et dont le rayonnement s'est éteint. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de la conférence. Tuilier aimait profondément les musées de région. Bordeaux est un des musées de région, cela a été rappelé tout au long du colloque, et j'ai eu la chance de l'associer à la rénovation du Palais des Beaux-Arts de Lille entre 1988 et 1998. Parallèlement, Tuilier m'avait conseillé dans la réalisation de plusieurs expositions temporaires, par exemple le peintre Arica, hein, qui est mort il y a 5 ans, ou bien Lille au XVIIe siècle. Et vers 1995, deux années environ avant la réouverture du musée, Tuilier me soumit un projet d'exposition qui lui tenait à cœur, réunir quelques tableaux anonymes, célèbres, des tableaux célèbres en quête d'auteur. Et il posait les questions suivantes. Pourquoi ces tableaux sont-ils anonymes? Ont-ils la chance de sortir un jour de l'anonymat? apportent-ils quelque chose? Ça, c'est la question capitale. Est-ce qu'ils apportent quelque chose à l'histoire de l'art? Hein, est-ce que l'histoire de l'art serait différente si ces tableaux anonymes ne l'étaient plus? Jacques Tullier était content et même très fier de son titre « Chien perdu » et je suppose qu'il avait lu, bien sûr, ce roman de Gilbert Cesbron. D'entrée de jeu, je souhaite vous montrer donc in extenso le document que Tullier m'avait envoyé. Alors voici, donc voici la liste que Tullier donc m'avait envoyée, que vous... peut-être les personnes au premier rang peuvent bien lire, les personnes plus loin auront du mal à le lire, mais rassurez-vous, on va les commenter un par un. Alors Tullier, dans la liste, et j'ai eu du mal à retrouver certains tableaux, il y a même un tableau que je n'ai pas retrouvé. Alors Tullier a légué ses archives à la médiathèque de Nevers, je suis allé à Nevers, mais malheureusement, le dossier de Tullier avait un dossier sur cette exposition, mais il a disparu. Alors la liste est un peu brute de décoffrage, et Tullier n'a pas mis les anciennes attributions, il n'a pas mis les nouvelles attributions. Alors, cette liste, il me l'a envoyée vers 1995, et on va voir ensemble, c'est une liste à peu près de 20-25 œuvres, j'ai oublié le chiffre exact, mais ça n'a pas d'importance, et on va voir d'ailleurs que depuis 1995, il y a déjà 3 tableaux qui ne sont plus en quête d'auteur, hein, donc, qui sont sortis donc, de l'anonymat. Alors, je lis par exemple Lille, Tête de Cire. Alors, c'est sur les 20-22 œuvres, il y a 21 peintures et une sculpture. C'est la sculpture, c'est la numéro 1, c'est la tête de cire. Donc c'est de l'exception un petit peu qui confirme la règle. Et donc une seule sculpture, c'est la première. Et puis vous avez ensuite donc la scène du musée de Lille. On va la voir dans quelques instants. La scène à Emmaüs. Alors là, de façon exceptionnelle, tu lui as mis l'ancienne attribution ex Tournier. Alors vous êtes à Bordeaux. Vous n'êtes pas si loin donc de Toulouse et Tournier, sachez-le, et vous le savez, je sais que vous le savez, c'est le grand peintre caravagesque donc du premier tiers du XVIIe siècle. On va voir le tableau. Là, voici donc la suite donc de la liste. Et avant de vous montrer, alors voilà la tête de cire, mais je voudrais quand même maintenant, avant de commenter les 22 œuvres, les unes après les autres, j'aimerais vous lire le propos. Alors, Tullier envoie la liste, on l'a vu sur l'écran, et voici maintenant ce qu'il m'écrit. Le principe serait le suivant. On réunirait un petit nombre d'œuvres, toutes très curieuses, mais toutes de haute qualité. Deuxièmement, il devrait s'agir, on ira plus dire aussi, il doit s'agir, mais il devrait s'agir d'œuvres, sans signature, sans attribution ancienne, tant soit peu plausible, pour lesquelles il y a toujours eu hésitation, non seulement sur le nom de l'auteur, ce qui est très banal, mais surtout sur le foyer, le courant, le pays, et souvent, entre parenthèses, sauf pour les portraits, sur le siècle, sans qu'aucun rapprochement n'ait été jusqu'ici concluant. Ensuite, selon Tullier, seraient donc exclues des œuvres comme le Gonella de Vienne, du Kunsthistorisches Museum. C'est un tableau, le Gonella, c'est un bouffon. C'est un bouffon donc, de la cour donc, de Charles VII, désormais donné avec beaucoup de probabilité donc, à Fouquet, ou bien un autre tableau, la chasse de Diane. Alors, le Gonella, c'est un tableau maintenant à Fouquet, c'est un tableau du XVe siècle. Mais Tullier, il ne le dit pas, mais c'est implicite, il s'occupe du XVIIe siècle. Alors, il exclut, par exemple, la chasse de Diane. C'est un très beau tableau anonyme du musée Tessé du Mans. Et là, il met entre parenthèses, bien situé entre Vouet et Le Sueur. Fermez la parenthèse. Il veut supprimer les multiples tableaux dits École de Vouet, bien datables et localisables. Au-delà de Vouet, qu'est-ce qu'il veut dire? Il élimine les tableaux anonymes qui sont rattachés à un peintre. Par exemple, il y a des tableaux anonymes de l'école de Delacroix. Il y a des tableaux anonymes de l'école de Géricault. Il y a même un ou deux tableaux cubistes. On ne sait pas de qui ils sont, anonymes, mais l'artiste est influencé par Picasso. Alors, si on peut rattacher le tableau à un peintre précis, à une école, donc Tullier les élimine. Il faut sans doute exclure aussi, pour raison de coût, les tableaux de Russie. Ensuite, dernier point, pour chaque œuvre serait établi un dossier aussi clair et complet que possible, et le débat laissé ouvert. On remarquera que donc dans cette liste, Tullier ne propose pas de nouvelles attributions. Pour être franc, on n'a pas eu beaucoup de séances de travail sur le projet avec la Tullier. Il m'avait séduit ce projet, mais la municipalité de Lille m'avait demandé de me concentrer sur l'organisation d'expositions plus ambitieuses, entre guillemets. La médiathèque de Nevers, interrogée par moi, ne possède pas de dossier, donc de Tuilier, sur cette exposition. Je vous l'ai déjà dit, et pardon pour la répétition. Donc voilà la première œuvre. Cette œuvre, donc, mesdames et messieurs, chère présidente, cher Antonin, cette œuvre a été célébrissime. Cette œuvre, tenez-vous bien, elle est tombée un peu dans l'anonymat. Elle a été à un moment aussi célèbre que la Joconde, donc de Léonard. Et on l'appelait la tête de cire. Et quand l'île est occupée par les Allemands, pendant la guerre de 14, parce qu'il y a une très belle érudition allemande depuis le 19e siècle sur l'art italien de la Renaissance, et les Allemands l'avaient surnommé Die Mädchen von Lille, donc la demoiselle donc de Lille, parce que cette sculpture, c'est une cire avec un pied d'ouche en terre cuite, était attribuée à Raphaël. Alors c'est le legs d'un peintre, un grand révolutionnaire, peintre intéressant, beau dessinateur, qui s'appelle Vicard. Vicard est l'élève de David, et il est payé par le gouvernement. Il est un homme très, très révolutionnaire, très honnête avec lui-même. Il était payé par le gouvernement révolutionnaire pour saisir des œuvres en Italie pour le Muséum central des arts. Mais en même temps, il était peintre, dessinateur, et puis troisièmement, eh bien, il avait ce vice impuni qui est la collection. Et mesdames et messieurs, il a fait trois collections en l'espace donc de 25 ans. La première lui a été volée, la deuxième il l'a vendue parce qu'il avait besoin d'argent, et puis la troisième il l'a léguée au musée de Lille, dont cette tête de cire qui pendant un siècle, donc c'est un legs à Lille en 1825 au moment de sa mort, dont cette tête de cire qu'on a cru pendant un siècle de Raphaël. Et dans le legs, eh bien, il y a 25 dessins du grand Raphaël. Donc là, les dessins sont autographes, des dessins de Ghirlandaio, de Del Sarto, de Botticelli, donc les des plus beaux artistes. Parce que Vicard, il avait une passion, non pas pour les artistes italiens, parfois un peu ennuyeux, un peu bavards, des XVIIe et XVIIIe siècles, mais il avait un goût prémonitoire. Il s'intéressait à la haute époque, il s'intéressait au Quattrocento, au Cinquecento. Et ça, cette démarche en 1820 est tout à fait originale. Les élèves de David, en d'autres termes, préfèrent Guido Reni et Annibal Carracci que la peinture du Quattrocento et du Cinquecento. Et Vicard donc, avait un goût donc vraiment prémonitoire. C'est la seule sculpture d'exposition. Tuilier y tenait énormément. Non pas parce qu'elle est conservée à Lille, mais parce qu'elle est emblématique de la fortune que connaît l'œuvre d'art. La fortune que connaît l'œuvre d'art, deux points, passer de la célébrité à l'anonymat le plus complet. Alors, elle a été célèbre, vous m'avez entendu. Alors, on ne sait pas comment Vicard l'a acheté. On ne sait pas comment il l'a acheté, on ne sait pas où il l'a acheté. Donc, elle est documentée dans le legs Vicard au musée de Lille en 1823. Et elle est très, très publiée par l'érudition allemande et française comme la tête de cire de Raphaël, donc du palais des Beaux-Arts de Lille. Et Tuilier réfléchit là-dessus, comment une œuvre aussi célèbre que celle-ci, comme je vous l'ai dit, célèbre comme la Joconde, eh bien, tombe dans l'anonymat le plus complet. Parce qu'au XXe siècle, plus personne n'en parle, parce que quelqu'un dit, ce n'est pas Raphaël, c'est un sculpteur belge, contemporain de Nicolas Poussin, peu connu, et qui s'appelle François Duquesnoy. Alors, pour Tuilier, il est emblématique de la fortune que connaît l'œuvre d'art, deux points, passer de la célébrité à l'anonymat le plus complet. Tuilier la cite, mieux, il l'analyse longuement dans sa leçon inaugurale au Collège de France le 13 janvier 1978. Il la reproduit en couverture de son livre, le voilà. Ça, c'est la leçon inaugurale donc, du Collège de France. C'est un grand moment, hein, c'est un moment de l'esprit hein, que cette leçon inaugurale. C'est une réflexion sur cette science qui s'appelle l'histoire de l'art. Et voici donc le livre donc, de Tuilier. C'est un livre très très intéressant, publié chez Jordi Jacob donc, il y a une vingtaine d'années, avec la dédicace qu'il a eu la générosité donc, de me faire. Voilà, Tuilier, donc l'analyse dans sa leçon du Collège de France, il a reproduit en couverture, etc. Et bien sûr, il faut le mieux de lui donner la parole. Voici deux extraits de la leçon du Collège de France. Le buste de jeune fille apparaît en 1822 dans la collection du peintre et connaisseur lillois Vicard. Je ne passe jamais sans m'arrêter longuement devant cette admirable tête de jeune fille, sculpture de cire et de terre cuite, jadis attribuée à Raphaël, et qui fut longtemps la gloire du musée. C'était un peu sa Joconde. deux points, aiguère, moins fascinante. On l'appelait la tête de cire de Lille. Un jour, il fallut pourtant, ça, on est en gros vers 1920, un jour, il fallut pourtant s'apercevoir qu'elle n'était ni de Raphaël, ni de Duquesnoy. C'est ce sculpteur flamand avec qui elle était donnée, mais l'attribution ne tient pas la route. Et les érudits insinuèrent qu'il pouvait s'agir d'un pastiche. Mais cette solution commode à son tour se révéla erronée. Ce chef-d'œuvre était donc rejeté de l'histoire. Il ne tarda pas à être rejeté de la gloire. Et plus loin, ce chef-d'œuvre pourtant est prêt à rayonner de nouveau le jour proche sans doute où l'historien d'art, avec son identité, lui rendra place parmi les plus parfaites créations de la Renaissance. Donc là, la phrase est importante. L'œuvre actuellement, c'est vrai qu'actuellement, si vous allez au musée de Lille, si vous interrogez le visiteur à la sortie, il vous parlera peut-être du Bélisaire de David, il vous parlera de la Médée de Delacroix, il vous parlera d'un grand tableau d'hôtel de Peter-Paul Rubens, mais c'est vrai que moi, c'était mon travail, mon job de les mettre en valeur dans la rénovation, mais elles restent encore aujourd'hui, donc très très peu connues. Il y a peut-être un visiteur sur 10 qui la remarque, même si une belle muséographie lui a été consacrée. Alors c'est une œuvre, ce que ne dit pas Tullier, mais il aurait très bien pu le dire, c'est une œuvre donc très belle, donc très mystérieuse, voilà, très mystérieuse. Mais surtout, si vous êtes dans une technique de cire, hein, et donc une technique donc extrêmement fragile, et surtout, si vous voulez, on n'a pas de critères, on ne sait pas comment l'agripper, on ne sait pas l'agripper, c'est-à-dire au sens de l'apprendre, on ne sait pas comment l'aborder. Est-elle de la fin du 15e? Est-elle du 16e? Comme un contemporain de Raphaël, parce qu'elle était aussi donnée à Léonard de Vinci, tenez-vous bien, ou bien est-ce qu'elle est du 17e siècle? Alors effectivement, il y a ce sculpteur belge, classicisant, qui sculpte une Sainte Suzanne dans une église, donc de Rome, tout près de la Via del Corso, mais je me répète, l'attribution, donc, n'est pas, Duquesnoy, n'est pas satisfaisante. Voilà la deuxième œuvre, et je vous prie donc de m'excuser, c'est un peu l'histoire donc du cordonnier mal chaussé, parce que c'est un tableau donc du musée des Beaux-Arts de Lille, c'est une toile, c'est la dernière scène, c'est une toile de 1,20 m par 1,60 m, et c'est un tableau anonyme, probablement flamand, peut-être parisien des années 1620, et en d'autres termes, vous avez devant les yeux, donc mesdames et messieurs, vous avez un petit peu ici une image de la peinture religieuse à Paris, vers 1620, avant un grand Simon Vouet, donc avant un grand Nicolas Poussin. Tullier m'a dit, là, personnellement, donc, de ce tableau, qu'il évoquait le milieu de cette peinture parisienne vers 1620, à l'époque où Poussin peint la mort de la Vierge pour Notre-Dame de Paris. Parenthèse, ce tableau, comme vous le savez peut-être, il a été retrouvé dans une église près de Bruxelles, il y a une dizaine d'années. Tullier était frappé par l'aspect nordique de cette œuvre, peu connue, et qui pourrait donc un jour sortir de l'anonymat. Troisième tableau. Alors ça, c'est un tableau très émouvant. Hein. C'est un tableau, il me plaît d'en parler dans cette ville, parce que c'est un tableau que vous pourriez très bien voir dans l'admirable chartreuse Saint-André de Bordeaux, donc dans le quartier de Mériadec. Hein. C'est tout à fait l'esprit de cette peinture. Alors, je dis le mot province, mais dans ma bouche, ce mot n'a aucune connotation péjorative. Maintenant, il vaut mieux dire région, mais le mot de province a une très très belle signification. Et c'est un tableau tout à fait typique donc d'une peinture donc de province française vers 1630 et un grand tableau influencé par le caravagisme. Alors ce tableau, il a fait couler beaucoup d'encre. C'est la scène à Emmaüs. Alors c'est un legs pour étudier un tableau quand il est anonyme, pour le sortir de l'anonymat, la provenance est importante. Alors, c'est Nantes, musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la collection d'un ancien ambassadeur de France, Caco, avec son frère, à Rome vers 1810. Et presque tous les tableaux Caco ont été achetés en Italie. Alors, est-ce que Caco peut acheter un tableau de Tournier? Parce que là, il a été donné. Alors, je vais trop vite, je reviens un petit peu en arrière. L'attribution la plus plausible, c'est de ce beau caravagesque toulousain, c'est le plus grand peintre toulousain de la première moitié du XVIIe, qui s'appelle Nicolas Tournier. Mais l'attribution n'a pas fait son chemin. Une attribution audacieuse, il faut donner du temps au temps, elle fait son chemin, elle s'impose, ou bien l'inverse, elle ne s'impose pas. Et là, il y a toujours, il y a actuellement dans le monde à peu près une petite dizaine de personnes qui connaissent bien ce qu'on appelle le caravagisme, et ce tableau, pour l'attribution à Tournier, ne fait pas l'unanimité. Alors Tournier, ça me plaît d'en parler parce que la fondation, j'aime beaucoup Toulouse, comme Bordeaux, il y a ce musée des Beaux-Arts de Toulouse, le musée des Augustins, qui attend sa rénovation, et vous avez la fondation Bemberg, c'est un musée privé qui est très très beau. Et la fondation Bemberg, de façon donc incroyable, donc extrêmement courageuse, vient d'acheter tout récemment le tableau de Tournier. Ce sont des paysannes qui tiennent donc des paniers de fruits. Et donc allez les voir parce que c'est probablement donc la plus belle acquisition donc d'un musée de région pour l'année donc 2015. C'est des tableaux qui font l'honneur à la ville de Toulouse et c'est des tableaux qui apportent une note follement originale dans la peinture caravagesque. Alors ce tableau, je vous dis maintenant une chose un peu essentielle, c'est qu'il est grand. Alors c'est pas un tableau d'hôtel, mais c'est un tableau grand, c'est un tableau de 1m70 à 1m80 de hauteur et peint par un caravagesque, peut-être français. Alors soit peint à Rome, mais ces peintres français qui vont apprendre leur métier à Rome, hein, il s'appelle Tournier, il vient de Toulouse, il s'appelle Leclerc, il est de Nancy. Ils passent quelques années, ils se forment en Italie, tous ces peintres, et puis ils reviennent dans leur province, ou bien Guy François, hein, tous ces peintres, ils ont un dénominateur commun. Ils vont apprendre leur métier à Rome, sous les auspices de Caravage, et puis ils reviennent dans leur province natale, dans leur ville natale, et puis ils continuent à développer une peinture caravagesque. Le caravagisme, c'est une peinture de la réalité, c'est une peinture de l'humanité, c'est une peinture donc de silence, c'est une peinture extrêmement religieuse, un peu profonde. Et puis, ce tableau, on pourrait très bien l'imaginer peint entre Le Puy et Toulouse, c'est-à-dire entre Guy François et Tournier, donc dans ces années 1630. Le tableau, alors je lis mes notes, là, le tableau est révélé par Sterling. Alors Sterling, c'est un immense personnage, donc un génie total qui est mort il y a 15 ans. Et c'est lui qui a réhabilité Georges de la Tour et le XVIIe siècle français. Et Tullier l'avait présenté dans une exposition célèbre en 1934. Mais je ne vais pas trop vous ennuyer dans cette conférence avec des références bibliographiques, mais sachez qu'il y a eu une exposition très très célèbre à Paris en 1934 sur les peintres de la réalité. C'est pour la première fois qu'en France, on voyait côte à côte une dizaine de tableaux de Georges de la Tour et une dizaine de tableaux donc des frères Lenain. Alors pour moi, personnellement, qui étudie un petit peu le caravagisme, eh bien, je me suis donc un peu cassé les dents sur ce tableau, ce grand tableau silencieux, émouvant, sobre, et qui est peut-être donc de Nicolas Tournier. Alors voici donc un tableau, si vous voulez, très intéressant. Alors là, je fais appel... non pas Antonin, mais je fais appel à des personnes plus âgées, donc à des personnes un peu qui ont mon âge. Et quand on était étudiant ou lecteur, donc dans les années 60, au début des années 60, on le disait Malraux, on disait le musée imaginaire, on faisait le voix du silence. Et ce tableau a été, c'est très intéressant de réfléchir sur l'œuvre d'art, ce tableau, il est oublié maintenant, il est totalement oublié, mais quand on lisait beaucoup Malraux dans les années 60, eh bien, le tableau avait une place d'honneur dans les voies du silence comme Georges de la Tour et André Malraux. Il faut revenir à Malraux parce que quand Malraux écrit sur l'art, il a été mis au pinacle, il a été un peu dénigré. Il faut revenir donc à Malraux parce qu'il y a des rapprochements fulgurants. Bon, c'est pas une histoire de l'art pur et dur, mais tant mieux, hein, il y a plusieurs méthodes donc d'aborder l'histoire de l'art. Mais en d'autres termes, voilà, ce tableau était très très célèbre et c'était Georges de la Tour. Et Brigitte, il est dans une région que vous connaissez un petit peu, c'est donc près de Périgueux. Donc l'abbaye donc de Chancelade, tout près de Périgueux, et c'était le Latour. Mais à partir de 70, si Malraux garde l'attribution de la Tour, d'autres historiens, comme un Anglais, Nicholson, disent plutôt « École de la Tour ». Et tenez-vous bien, eh bien, on a trouvé la réponse. Donc, il y a sept Tuilier, il y a sept, huit ans. Et Tuilier ne le savait pas, ça, Tuilier ne le savait pas. Eh bien, tenez-vous bien, on sait ce qu'il sait maintenant. On a retrouvé l'original. Finalement, ce que vous avez sur l'écran, c'est une copie ancienne. Et l'original, eh bien, de Gerrit van Honthorst. et le tableau, c'est un tableau du Christ aux outrages, et le tableau est au Los Angeles County Museum of Art. À Los Angeles, vous avez deux musées, le Getty et le County. Alors, tout le monde va au Getty, moi je vous conseille d'aller à l'autre, hein, au County, qui a plus d'épaisseur, qui a plus d'histoire. Hein, c'est un musée, le County Museum, est absolument merveilleux. Et le tableau de Hontorst, qui est réapparu sur le marché, hein, acheté par le County, eh bien, c'est un tableau à 5-6 personnages. Et ici, vous avez une copie ancienne du motif central. Le peintre, très intelligent copiste, il prend uniquement la figure du tableau du County Museum et puis il en fait une autre œuvre, hein, on aurait pu croire. Jamais personne n'avait dit, ben ça c'est finalement, quel est le peintre? Bon, ça c'est une autre question, mais jamais quelqu'un n'avait dit, ça pourrait être un fragment d'un grand Ecce Homo avec de nombreux personnages. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, donc on le lit différemment quand on apprend, on sait que c'est une copie ancienne, donc d'après un grand tableau de Hontorst. Donc, dans les avis, il y avait, je veux pas être trop long, hein, mais il y avait comme 3-4 personnes qui connaissent admirablement ce mouvement du caravagisme, dont cet anglais, Nicholson. Et alors, on disait La Tour, on disait École de Caravage, et Nicholson, cet anglais, il avait eu l'intuition, hein, il avait donc probablement nordique. Donc voilà, et l'avenir aura donné à raison, puisque le tableau est une copie de Hontorst. Et le tableau de Hontorst, je reprends ma note, là, provenait d'une celui qui est au County Museum provient d'une collection de Gênes, la collection Croza. Ensuite, le Christ dans la forêt des croix, c'est un tableau au Prado, collection royale, tableau donc anonyme, et c'est un tableau sur l'âme chrétienne qui accepte sa croix. C'est un tableau sur toile de moyenne dimension, et c'est un tableau, tu aimais beaucoup ce tableau, et c'est peut-être d'un peintre lyonnais des années 1650, Jacques Stella. Alors je vous prie de m'excuser parce que là j'ai eu un petit malheur donc pour glaner la photographie. Le musée donc ne m'a pas répondu. C'est le musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, c'est le Christ au tombeau porté par un ange. Et vous voyez, c'est intéressant. Bon, vous allez m'excuser. Je suis pas fier de moi parce que la reproduction n'est pas géniale, mais faites-moi confiance. C'est un joli tableau. C'est un bois, un 55 par 72 cm. Et voyez-vous, c'est intéressant parce que ce tableau, il est très très célèbre. Disons, il ne faut pas que j'exagère. Disons qu'il est célèbre dans la littérature du 18e comme un tableau de Hallé, H-A-2-L-E. C'est un peintre 18e. Eh bien, pas du tout. Ce tableau n'a rien à faire. Il ne se comprend pas dans un contexte 18e. Et c'est plutôt donc l'école de Charles Lebrun. Mais le tableau reste encore anonyme. Alors, voici un tableau que Tullier aimait énormément dans l'article qui suit ma communication au colloque Tuilier. Moi, je propose, hein, vous allez dire que je ne suis pas courageux, mais je suis prudent, je mets peintre caravagesque anonyme. Et moi-même, personnellement, j'ai même interrogé d'autres personnes, j'arrive même pas à voir l'école. Est-ce que c'est le caravagesque italien? Est-ce que c'est le caravagesque français? Est-ce que c'est le caravagesque espagnol? Disons que c'est un tableau qui traîne, mais le mot est, je m'excuse, le mot est un peu familier, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il traîne, ça veut dire qu'il est souvent cité, quoi. Il est tout le temps cité dans les livres sur le caravagisme. Et c'est la déploration du Christ. C'est une toile, 130 par 160. C'est très important que vous ayez les dimensions, parce que c'est pas un petit tableau, c'est un assez grand tableau. Et c'est dans l'église, la fameuse église de la rue du Bac, l'église, le vocable de l'église, c'est l'église Notre-Dame des Missions de la rue du Bac. Provenance inconnue. Hein. J'ai consulté les archives à la demande de Tuilier. Inconnu. Il pourrait venir donc de ce qu'on appelle les églises de Paris. Au moment de la Révolution française, tenez-vous bien, il y a eu un brassage à peu près de 6000 tableaux provenant des églises, des chapelles, des couvents, des hospices, des collèges religieux. Ça transitait par différents dépôts, dont le dépôt du Musée des Monuments français. Il y a eu des ventes invraisemblables. Il y a eu des envois dans les églises de France. Il y a eu des envois massifs donc au Québec, etc. Mais ce tableau, on aurait aimé retrouver, si vous voulez, provient de telle église, mais impossible. Et le tableau, eh bien, était... Alors ce tableau, C'est assez amusant. Donc, dans la liste de Tullier, tous les tableaux ont une attribution. Vous allez voir tout à l'heure. Vermeer, Poussin, Velázquez, Goya. Et c'est le seul tableau de la liste de Tullier qui, finalement, était anonyme. En résumé, un beau tableau, caravagesque, émouvant, et à le revoir avec vous. Je ne dis pas ça pour... je ne parle pas trop vite, je ne parle pas au hasard, mais à le revoir avec vous, finalement, le tableau à un côté, un petit peu, donc d'un caravagesque français, et notamment ce peintre du Puy, en Auvergne, ce peintre qui s'appelle Guy François. Alors ça, c'est un joli tableau, joli, mais mineur. Donc c'est un gentil, ça c'est un adjectif que les historiens d'art aiment beaucoup, et ça veut dire quelque chose. Hein. Gentil, c'est pas un gentil garçon, c'est tout autre chose. Gentil, ça veut dire c'est un joli tableau. Voilà, un joli tableau qui apporte beaucoup de satisfaction. C'est par opposition à un tableau muséal. Un tableau muséal, c'est un tableau profond, monumental, qui interpelle le spectateur. Un gentil tableau, c'est un joli tableau d'amateur. Et le tableau était donné à Bourdon. Alors Tullier avait une passion pour Bourdon, et Bourdon, c'est un de ces jolis peintres de la moitié du XVIIe siècle, actif entre Rome, Montpellier et Paris. Et depuis, eh bien, la liste de Tullier, personnellement, il se trouve que c'est moi qui ai pu faire l'attribution, mais ça, c'est pas important, c'est un peintre napolitain qui s'appelle Andrea Delione. L'essentiel de ce tableau, c'est le support, c'est le cuivre. C'est 28 par 40 cm, c'est un tout petit tableau donc d'amateur, c'est un tableau très ravissant, mais de Saint-Napolitain, qui a un goût, entre guillemets, donc un petit peu français, par ce sens, donc du classicisme. Mais, je vous le dis rapidement, c'est un des tableaux mineurs de la liste de Jacques Tullier. Alors voici un tableau que cette jeune femme a fait tourner la tête de tous les conservateurs du Louvre, hein, moi le premier, puisque ce tableau, il a été acquis, je reprends mes notes, il a été acquis en 1990 par le musée du Louvre. Et c'est la Vierge qui veille sur l'enfant endormi. C'est une toile, toujours important de donner les dimensions, 80 par 70 cm. C'est le typique tableau de chevalet, le tableau d'amateur, hein, le tableau de collectionneur. Hein, le terme du XVIIe siècle, c'est un tableau de cabinet. Le cabinet, c'est une pièce noble, hein, c'est pas le sens donc du XXIe siècle, c'est une pièce noble où on réunit des œuvres d'art. Hein. Ça peut être des porcelaines, ça peut être des dessins, et en général, on dit cabinet de tableaux, hein, dans tous les hôtels, presque tous les hôtels particuliers d'Ancien Régime à Paris, jusque vers 1820-1830, eh ben, il y avait dans tous les hôtels particuliers, il y avait une pièce qu'on appelait le cabinet de tableaux. Alors ça, c'est amusant parce que c'est une acquisition de 1990 et le Louvre avait le courage d'acheter un tableau anonyme. Il n'y a rien de plus difficile que lorsque vous dirigez un musée, donc d'acheter une œuvre anonyme. Que vous soyez en France ou en Amérique, il faut convaincre les trustees. Les trustees, c'est les personnalités, donc dans les comités scientifiques, qui, c'est pas le conservateur, hein, qui décide. Le conservateur fait une proposition d'achat, mais il y a un comité supérieur qui analyse le pour et le contre. Il n'y a rien de plus difficile que de convaincre, donc, des amateurs, des banquiers, des financiers, des connaisseurs, des gens toujours très remarquables. Mais rien de plus difficile, eh bien, que de les convaincre de dépenser des deniers publics pour une œuvre qui reste anonyme. Eh bien, bien en a pris, donc, au Louvre, parce que le tableau, il a enfin fait son chemin, et là, vous reconnaîtrez, donc, l'expression de tout à l'heure, il a fait son chemin, donc, une attribution qui a été prononcée, donc, Laurent de Lahire jeune, hein, jeune, c'est Lahire avant Lahire, Laurent de Lahire, c'est un des jolis peintres du XVIIe siècle, c'est le peintre de ce qu'on appelle les peintres classiques français, alors que mon ami Vouet est un peintre, entre guillemets, plutôt un peu baroque et décorateur, Laurent de Lahire, comme Poussin, c'est un peu l'inverse, c'est des peintres un petit peu, donc, du classicisme. Ce tableau, il a interpellé tous les conservateurs du département des peintures au moment de son acquisition. L'attribution à Lahire, donc, est refusée par Rosimbert et Tullier dans un grand catalogue d'exposition, mais un collègue du Louvre, donc M. Cusin, donc le défend dans un catalogue d'acquisition. Et cet historien d'art, Jean-Pierre Cusin, souligne l'art élégant, raffiné de l'œuvre ou bien l'irremplaçable petite note de charme qui préside donc à ce joli tableau. C'est ce qu'on appelle un tableau donc d'amateur, la Vierge qui veille sur l'enfant endormi. Ce thème très célèbre au XVIIe siècle, donc de la Vierge à l'enfant. Alors voici donc un tableau. Alors dans la deuxième partie, la première partie qui vient de se terminer, présidente, je ne suis pas trop long, non ? D'accord, dites-moi. Alors dans la deuxième partie, c'est les portraits. Tuilier, donc, c'est une exposition en trois parties. Alors, on va voir, curieusement, qu'il a omis les natures mortes. Et je me suis posé la question. Et je n'avais pas pu l'interroger là-dessus. Mais les natures mortes anonymes, il y en a tellement que peut-être il se réservait pour une autre exposition. Et Tuilier, ça, il me l'a dit, il tenait beaucoup à cette deuxième section, donc des portraits. Et vous allez voir ce que je vous dirai en conclusion de cette analyse, donc de la deuxième partie, des portraits. Dans une deuxième partie, Tuilier souhaitait aborder l'art du portrait. Sept tableaux composent cette section. On sait que ce genre pictural reste encore très méconnu aujourd'hui. Et les tableaux anonymes, évidemment non signés, sont légion. Tuilier appréciait tout particulièrement ce genre pictural. Il s'interrogeait par exemple sur le portrait collectif en France au XVIIe. Presque tout a disparu, insiste-t-il. Effectivement, vous connaissez les portraits collectifs, par exemple, de Frans Hals, de Rembrandt. Eh bien, on a eu des portraits collectifs à Paris. Alors, on en conserve par un miracle total quelques portraits de Capitoul, non loin d'ici, donc à Toulouse. Mais dans les grandes villes, comme Bordeaux, comme Rennes, comme Paris, il y a des portraits collectifs des échevins, des magistrats de la ville. Et ça a été détruit à la Révolution française. Alors, il y a tout un pan du portrait parisien-français qui a disparu. C'est ce qu'on appelle le portrait collectif. Alors, là... Il y a... Non ? Alors, c'est pas grave. Bon, alors, le plan n'est pas respecté, mais c'est pour moi extrêmement facile. Donc, il manque une diapo, mais on va la voir. Je ne suis pas inquiet. Ça, c'est l'homme au ruban rose. Alors, Tuilier était très lié à ce monde des collectionneurs, des amateurs. Et il y a un monsieur qui est mort maintenant, que j'ai bien connu, un personnage sorti donc mais totalement, c'est pas une image d'Épinal, hein, mais ce monsieur, Badereau, était sorti d'un roman de Balzac. Il venait de Montpellier et il était marchand de tableaux à Paris, à une époque absolument rêvée, donc entre 1940 et 1980, où les découvertes qu'il a faites sont légion. Et il a légué la queue de sa collection, c'est-à-dire les rebuts de sa collection, la fin de sa collection, il l'a légué donc au Musée des Beaux-Arts de Rouen, dont ce joli portrait de l'homme au ruban rose. Monsieur Laclotte, qui est mon ancien patron, c'est un grand, grand monsieur, Monsieur Laclotte m'a rappelé que Tuilier a fait partie était une des personnalités scientifiques qui s'occupèrent du legs Badereau fin 1975. Il s'agissait de dresser l'inventaire d'une centaine de tableaux stockés dans un appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré. L'œuvre, depuis quelques années, n'est plus anonyme, de point. Il s'agit bien évidemment d'une œuvre d'un portraitiste flamand actif à Rome, Ferdinand Voet, V-O-E-T, en deux mots et sans regarder mes notes, c'est un très joli portraitiste flamand à Rome, seconde moitié du XVIIe siècle. Il a peint beaucoup de cardinaux, d'aristocrates et ses grandes familles italiennes comme Aldo Brandini ou Chigi. Il a même fait des cabinets de beauté. Les cabinets de beauté, c'est des cabinets. Cabinet veut dire une pièce, vous m'aviez écouté tout à l'heure, où on accroche côte à côte, cadre à cadre, les cadres à touche-touche, donc une vingtaine ou une trentaine de beautés. C'est des femmes en général belles, donc d'une même famille. Et ce portraitiste, eh bien, sa connaissance était locale. On le connaissait à Rome et on ne le connaissait pas à Paris ou à Marseille. Et puis grâce un petit peu au développement de l'histoire de l'art, eh bien, l'attribution donc a été très facile. Et le tableau donc, que Tuilier pensait anonyme, eh bien, est de ce joli peintre flamand actif à Rome. Là, il y a une autre sorte d'anonymat, l'homme au ruban rose. Ça ne vous satisfait pas, hein, j'espère. C'est bien sûr qu'il a du ruban rose, mais qui est ce jeune prince? À quelle famille romaine appartient-il? Alors, comme Voet, dans ses 20 années à Rome, a peint à peu près 300 portraits, eh bien, c'est un peu fatal, hein, c'est un petit peu la règle du jeu que certains aient perdu donc l'anonymat le plus total, c'est-à-dire parfois l'attribution à Voet a disparu, et puis souvent le nom du modèle donc a disparu. Mais ça, c'est un des joyaux donc de la collection Badereau à Caen, un très très joli tableau. La petite histoire de, pour faire une pause dans cette conférence, du même peintre. Et donc il y avait du même peintre, il y avait deux autres portraits. C'est deux autres portraits de jeunes hommes avec ce très beau col de dentelle. Et puis, ben, tenez-vous bien, j'ai pu les faire acheter par le musée de la dentelle à Alençon. Et la municipalité donc de Alençon m'a suivi uniquement parce qu'il y avait de la dentelle. Mais c'est anecdotique. Mais j'ai revu Alençon assez récemment. Eh bien, c'est parmi les jolis, jolis tableaux de Alençon. Alençon est un des jolis musées de région, mais il y a très, très peu de tableaux anciens. Et Dieu merci, bon, il y a ces deux nouvelles acquisitions donc, de ce même peintre qui s'appelle Voet. Alors, voici une acquisition récente du musée de Rennes, une attribution très courageuse parce que, hein, je vous redis, convaincre sa municipalité d'acheter un tableau anonyme, c'est pas facile. C'est le portrait d'un jeune artiste, toile, 1m10 par 1m80. Et c'était donc une ancienne attribution donc à Bourdon. Alors là, je vais passer plus vite, mais disons que c'est un joli portrait donc entre Le Sueur et Bourdon. Et voilà, c'est très très courant, très significatif. Hein. Le portrait, je vais faire une généralité, mais il faut pas trop exagérer quand même. Mais le portrait très souvent est anonyme, ce qui n'est pas le cas d'un tableau d'hôtel, hôtel au sens religieux, c'est pas le cas d'un grand tableau mythologique. Et le portrait est souvent anonyme. Les peintres, vous avez pu me poser la question, les peintres signent peu. Nicolas Poussin, il a peint 140 tableaux dans sa vie, il y en a deux qui sont signés. Simon Vouet, il peint à peu près un peu moins, il peint à peu près une centaine de tableaux, il y en a trois signés. Hein. On commence à signer, Watteau ne signe pas, ou très peu. On commence à signer à partir donc du 19e siècle. Examinons maintenant, ça va être celui-ci le suivant, examinons maintenant donc deux portraits attribués jadis à Lenain. Alors les Lenain, les trois frères Lenain, hein, Mathieu, donc Mathieu et Louis, et le troisième, eh bien les Lenain donc sont parmi les grands portraitistes donc du milieu du XVIIe siècle, et ils ont été confondus donc tous les trois. Et de même qu'un tableau sombre, et avec un style caravagesque, de même qu'un tableau sombre a été donné pendant des générations à Caravage, de même qu'une jeune fille ou une jeune femme au visage gracieux du XVIIe, disons un tableau de l'époque Louis XIV, est donné à Pierre Mignard, eh bien de même, si vous voulez, tout tableau un peu réaliste, disons milieu XVIIe, est donné automatiquement aux frères Lenain. Alors dans l'œuvre peint donc des Lenain, eh bien il y a, on peut glaner effectivement donc une dizaine de tableaux qui auraient été tout indiqués pour cette exposition. Alors Tuilly en avait retenu deux, alors, je lis mes notes, anciennement attribué à Lenain, c'est portrait d'enfant, dit portrait d'un jeune prince, tableau de Nantes, du musée des Beaux-Arts, collection Cacot. Alors ça nous interpelle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Cacot, en principe, il achète toute cette collection en Italie. Hein, puis c'est un tableau typique français, parisien des années 1630, et ça, on ne sait pas, on n'a pas de livre de compte. Est-ce que Cacot l'a acquis donc à Rome, des œuvres circulent, ou bien il s'est glissé un ou deux tableaux donc de provenance totalement française dans la collection de cet illustre ambassadeur donc de France donc au Saint-Siège. On a voulu parfois reconnaître, alors ce qui est capital évidemment, c'est identifier le modèle. Identifier le modèle nous aide donc à régler le problème de l'attribution. On a voulu reconnaître parfois le jeune Jules d'Anguin, c'est le futur prince de Condé, c'est le vainqueur donc de Rocroi. Et Tuilier, mais ce n'est pas le nain et ce n'est pas le futur prince de Condé, c'est-à-dire le jeune duc d'Enghien. Tuilier l'a publié en 1978, que Tuilier avait étudié donc les Lenain, et parenthèse, il a fait une découverte extraordinaire dans une église tout près d'ici, donc près de Libourne, à Saint-Denis de Pile. Il a trouvé un tableau donc de Lenain dans cette petite église donc merveilleuse de Gironde. Tuilier l'a publié en 1978 en ces termes, le tableau que vous avez sur l'écran, c'est une œuvre d'un réel mérite qui, en perdant le nom de Lenain, ne devrait rien perdre de l'admiration à laquelle elle a droit. En d'autres termes, le tableau n'est pas Lenain, il est anonyme, mais il reste tout aussi beau, tout aussi donc important, proche de Lenain. Et voici le deuxième tableau, tu n'y aurais pu en mettre 5 ou 6, tu n'en as mis que 2. Je reprends mes notes, anciennement attribué à Lenain, portrait de jeune homme tenant son chapeau à la main, toile, 76 par 66 cm, Bruxelles, musée royal des Beaux-Arts. Alors, comme vous savez, à l'époque de Napoléon, Napoléon envoyait à peu près 1000 tableaux dans ce qu'on appelle les grands musées de région. Et à cette époque, suite aux conquêtes révolutionnaires puis napoléoniennes, eh bien, il y avait trois villes qui s'appellent Mayence, qui s'appelle Genève, qui s'appelle Bruxelles, qui étaient françaises. Alors, parce que ces villes étaient françaises, mais en 1815, si je puis dire, tout est rentré dans l'ordre. Hein, ces villes sont redevenues belges, allemandes ou suisses, mais les musées ont gardé leurs tableaux. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans ces trois villes, bien, vous avez beaucoup de tableaux qui peuvent provenir notamment d'aristocrates français ou d'églises donc, de Paris ou d'amateurs. Alors, ce tableau avait été envoyé par le gouvernement français à Bruxelles. Alors, ce tableau est plus mineur. Ce tableau plus mineur, donc je passe un tableau du musée de Dole en Franche-Comté, et c'est une jeune femme en buste, et je ne vais pas émettre de critique, mais j'ai, entre nous, hein, vous ne le répétez pas, mais j'avais jamais compris pourquoi Tullier avait retenu ce tableau, donc un petit peu modeste, mais vous ne lui direz pas. Hein. Alors voici donc un tableau donc de Lille, parce que Tullier aimait ses musées de région, il aimait Lille, il aimait Rouen, il aimait beaucoup de musées, il aimait beaucoup les musées de Dijon, par exemple. Et voici un portrait donc d'architecte donc de Lille. C'est une saisie révolutionnaire, c'est-à-dire que la ville de Lille, comme à Paris, comme dans toutes les villes de France, font des saisies chez les évêchés, dans les évêchés, dans les collections aristocratiques, donc dans les églises. Et ce tableau entre dans le futur musée des Beaux-Arts de Lille comme un portrait d'architecte et un portrait anonyme. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Alors depuis que Tullier m'a envoyé cette liste vers 1995, entre-temps, on a trouvé l'auteur, et c'est un peintre liégeois. C'est un peintre qui s'appelle Carlier, un peintre très peu connu, et je suis content parce que j'ai pu obtenir du musée donc cette belle reproduction. C'est un contemporain de Bourdon, et c'est un peintre liégeois, donc des années 1650. Alors voici un tableau tout à fait étonnant, plus important, hein, que même si c'est mon musée, hein, j'ai d'autres objectifs. Ça, à gauche, devant vous, c'est Lille. Et voilà un tableau plus important, un tableau qui n'est pas exposé. Hein. J'étais récemment à Genève, je n'étais pas content. Hein. J'ai perdu ma journée. Parce que ce tableau n'était pas exposé. C'est le joueur de lutte. C'est un tableau de Genève. Alors, il a un monograme. Il a un monograme. A, B. Alors, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui c'est. Hein. A, B, toile. 1,30 par 1,80. Hein, donc, c'est un tableau important. Hein. C'est... La taille du tableau, hein, on n'a pas beaucoup écrit là-dessus, mais la taille du tableau, ça dit beaucoup de choses. Hein. C'est une œuvre majeure, c'est pas un petit tableau d'un petit cabinet d'amateurs, hein. C'est un tableau donc impressionnant. Et il est à Genève, mais j'apporte un bémol, c'est pas un envoi de l'État, hein. C'est une provenance locale, genevoise, hein, cette famille Brière, non français, mais quand même, ce sont des Suisses, c'est pas un tableau. Qui est un envoi de l'État en 1800. Ce tableau a porté, jadis, une attribution à Velázquez, hein, s'il vous plaît. Et plus récemment, à un peintre hollandais, assez joli, mais peu connu, qui s'appelle Abraham de Vries. S'agit-il d'un portrait ? Alors, c'est le portrait d'un homme, hein, d'un joueur de lutte, hein, plutôt. Je vais dire un homme avec un lutte, non, excusez-moi, je m'exprime mal. Hein, c'est le portrait d'un joueur de lutte. S'agit-il d'un portrait écritulier ou bien d'une vanité? Voilà. Est-ce le portrait d'un luthiste célèbre? Cet artiste écritulier dans ma liste reprend le répertoire des nombreuses compositions de Stotzkopf. Stotzkopf, c'est un peintre allemand, mais actif à Strasbourg. En d'autres termes, sans tomber dans le superlatif, donc un des beaux portraits, donc anonymes, du XVIIe siècle français. Alors voici un tableau que je trouve extrêmement laid, mais je m'excuse de vous le montrer. Et c'est un tableau de Dole, hein, Dole. En Franche-Comté, on en a parlé donc il y a quelques secondes. Et c'est non, excusez-moi, c'est un tableau, pardon pour le lapsus, mais c'est pas grave. C'est un tableau de Genève. Et j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver parce que Tullier l'appelait le joueur de triangle. Et en fait, il est plus connu sous le titre du... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Antonin? Voilà, d'accord, merci. Voilà, c'est amusant parce que j'ai beaucoup de mal à le retrouver. Et vous, on voit bien, il tient un triangle, voyez-vous, il tient un triangle. Alors, il portait deux titres. Et finalement, j'ai réussi à le trouver. C'est un tableau, bon, il n'est pas extraordinaire, Mais c'est un tableau, on a beaucoup de mal pour sortir un tableau de l'anonymat. Vous avez compris, hein, il y a en gros un siècle. Est-ce que c'est du 16e ou bien du 17e ou bien du 18e, ou bien c'est une ère géographique. Là, on aura passé cette soirée ensemble, je vous aurais montré 20 ou 21 tableaux, et c'est peut-être le seul qu'on a beaucoup de mal à accrocher, à analyser. Alors, la spécialiste de Genève, qui s'appelle Madame Loche, elle rappelle que le tableau a été attribué à la Flandre, à la Hollande, à Goya, à l'Espagne, à Naples. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, que le tableau, il flotte. On ne sait pas, on ne peut pas l'agripper, le saisir. Et est-ce qu'il est du 17e? Est-ce qu'il est du 18e? Est-ce qu'il est nordique? Est-ce qu'il est espagnol? Mais c'est un beau tableau. Hein. C'est un tableau, à la différence du joueur de lutte qui n'était pas présenté, ça je l'ai vu quand je suis à la Genève, et c'est une pâte, hein, c'est une pâte très très moderne, même à la limite, donc du 19e siècle. Donc tableau très très étrange. Là je vais passer plus vite, c'est un ex-Bourdon, mais il était attribué à Vermeer. Alors ça fascinait Tullier, il m'en a parlé. Comment un tableau, un gentil tableau, français, mais du 17e, peut être donné à un immense peintre qui s'appelle donc Vermeer. Il est attribué à Vermeer par un grand historien de l'art hollandais du 19e siècle qui s'appelle Hofst de De Groot. Et Tullier, il s'y était intéressé parce que le tableau avait porté aussi une attribution à Bourdon. Mais c'est un portrait intéressant, français, mais du 17e. Voici un tableau Badereau, on en a parlé donc du lac Badereau, tableau donc anonyme. Et comme je vous l'ai dit en introduction, depuis une vingtaine d'années, l'histoire de l'art a fait des progrès. Et puis 4 tableaux sont sortis de l'anonymat, dont cette Danaé. C'est un tableau qui peut attribuer à un peintre de Blois, donc du XVIIe siècle, Monnier. Mais bon, là, je comprends pas pourquoi Tullier l'avait retenu, parce que c'est pas un tableau absolument majeur. Dans les tableaux anonymes, alors il y a beaucoup de tableaux vouettisants qui sont anonymes, qui ne reviennent pas à vouer, et puis il y a le problème Poussin. Alors, de même, ça c'est très important, de même que tout tableau un peu noir hein, est donné à Caravage, et tout tableau un peu classique, classicisant, est donné à Poussin. Alors Tullier a passé sa vie à étudier Nicolas Poussin, et le flambeau maintenant est repris par un conservateur du Louvre, donc M. Rosenberg, qui va publier une nouvelle monographie d'ici 3 à 4 ans. Poussin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peint à peu près, en l'espace de 40 ans, il peint à peu près 160 tableaux. Mais il y a une bonne centaine de tableaux poussinesques, mais qui ne reviennent pas au maître. Alors pourquoi? Ben pourquoi? Parce qu'on n'a pas la qualité, la gravité, la monumentalité, donc les inventions plastiques, et c'est des tableaux un petit peu donc de suiveurs. Et Tullier, donc, il avait mis pour l'exposition, donc, 2 tableaux, dans son choix de tableaux mythologiques. Tullier retient, donc, 2 anciens Poussins. Oui, parce que maintenant, je vous l'ai pas dit, mais cela vous a pas échappé, on a quitté la section des portraits, et on aborde la dernière section, la section, donc, des tableaux mythologiques. Et il retient ces 2 tableaux, donc, c'est un éco-énarciste de Dresde, la Gemälde de Galerie. Alors, Dresde, c'est toujours intéressant, hein. Dresde, c'est des collections princières, hein, c'est des collections des 17e, des 18e siècle, et même du début du 19e siècle. Il y a un tableau de Dresde, vous ne pouvez pas l'évacuer, donc l'évacuer, c'est ça, d'un revers de la main. Et c'est un tableau qui trouvera un jour son auteur. Et, parenthèse, on connaît très 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 mal hein, le monde des suiveurs et des imitateurs de Nicolas Poussin. Toile 72 par 96 de largeur. Alors voici un tableau absolument extraordinaire, Persée-Finée, donc un épisode mythologique, Persée qui effraie Finée avec la tête de Méduse. C'est un tableau de la National Gallery de Londres, 166 par 245, donc un tableau de grande dimension. Et tout récemment, eh bien, Poussin, il traîne dans tous les livres sur Nicolas Poussin jusque dans les livres, jusque les livres parus jusque dans les années 1960. Et c'est d'un peintre liégeois qui s'appelle Flémal. On a parlé tout à l'heure du portrait d'architecte de Lille, c'était Carlier. Là, c'est un autre peintre liégeois, mais beaucoup plus important, qui s'appelle Berthelet Flémal. Il n'est pas toujours exposé à la National Gallery, mais c'est un tableau qui vous interpelle non seulement par les dimensions, mais par la qualité d'exécution, donc extrêmement brillante. Et tableau, eh bien, qui est retiré maintenant de l'œuvre de Nicolas Poussin. Cette petite détrempe sur tissu s'était donnée à Bellange. Alors Jacques de Bellange, c'est un grand artiste, dessinateur, graveur. Il a peint un ou deux tableaux lorrains du premier tiers du XVIIe siècle. Et qu'on ne peut pas dire que Georges de la Tour l'a connu, mais Georges de la Tour, influencé, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle ville, par le caravagisme. Est-ce que Latour a pris son métier caravagesque à Rome ou bien à Utrecht ou bien tout bonnement à Nancy? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on peut déceler donc dans certaines œuvres donc de Georges, du grand Georges de Latour, eh bien des traces donc de l'influence de Bellange. Alors Bellange, c'est surtout un graveur, c'est surtout donc un dessinateur, et cette détrempe sur tissu donc qui est grande. Ça, je suis très très étonné par les dimensions, 146 par 87. On pourrait croire comme un petit gravure de Jacques Callot, toute petite. Non, c'est un tableau de plus de 1m40 donc de hauteur, et un tableau donc anonyme. Et Sterling, le grand Sterling, donc le considérait comme très très important. Je voudrais maintenant, donc en conclusion, on a vu donc les œuvres, et réfléchir donc un petit peu sur ce dont on a parlé. Et je voudrais abandonner donc le texte de ma conférence pour reprendre donc un autre texte. Pour reprendre un autre texte de Changeux, je termine brièvement, donc conclusion, en élevant le débat, donc et en réfléchissant. Et il faut toujours donner ses sources. Donc je me suis inspiré d'un texte du neurobiologiste Changeux, qui réfléchit sur la mémoire visuelle. Qu'est-ce qui permet donc à l'homme donc de faire une attribution? Il est dans un musée, il regarde le tableau, il ne lit pas l'étiquette, et quels sont les déclics qui lui permettent de prononcer l'attribution? Premièrement, un très beau texte donc de Changeux. Et puis deuxièmement, depuis ma conférence, j'ai retrouvé donc un autre texte de Tullier qui m'avait échappé et qui parle donc de cette problématique donc du tableau anonyme. Voilà. Alors si vous me donnez encore quelques secondes, je suis content donc de terminer, si vous voulez, dans une sorte de réflexion donc sur cette problématique. Alors là, je vous montre pas les photos. Mais c'est assez intéressant. Et vous, c'est la grande exposition Caravage, donc à Milan, en 1951, une exposition qu'on fera jamais. C'est plus possible. Il y avait 60 originaux de Caravage. Elle ne se refera jamais. C'est pas possible maintenant de déplacer donc des originaux de Caravage. Ou si on le fait, c'est en compte-gouttes. Et ce qui m'a beaucoup amusé, si vous voulez, c'est que le caravagisme, c'est un domaine où il y a énormément de tableaux anonymes. On n'en a vu qu'un ce soir, hein, c'est la scène à la maison de Tournier. C'est un domaine que je connais un petit peu, mais je pourrais tout de suite vous citer, donc de mémoire, donc en gros une vingtaine de tableaux anonymes, superbes et très célèbres. Je vais vous en citer 20, alors qu'il y en a 200 à peu près, j'ai compté, mais dans le monde il y a à peu près 200 tableaux, donc totalement anonymes. Alors ça m'a amusé parce que dans cette exposition Caravage, là j'ai scannerisé le catalogue qui est chez moi, eh bien il y a uniquement deux anonymes caravagesques, donc il n'y en avait que deux, parce que comme il y avait tellement de Caravage, on a mis très peu de tableaux anonymes. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Quand on fait une expo Caravage, on met peu de Caravage et on met beaucoup de tableaux anonymes. Ça, c'est les listes de Nicholson, cet historien d'art anglais, merveilleux, et qui a passé sa vie à étudier le Caravage. Et il a fait un livre où il y a à peu près 1200 photos de tableaux uniquement caravagesques. Et puis ça, je me suis amusé à enrichir la liste. Alors, j'ai pas eu assez de discussion avec Tullier, mais je sais que j'aurais dit quelque chose. à Jacques Tullier. Je lui aurais dit de recentrer un petit peu et je lui aurais dit concentre-nous sur 20-25 portraits du 17e, flamand, hollandais, italien, français, très extraordinaire. Et l'exposition, si vous voulez, elle aurait un peu... Le projet de Tullier, très bien, je ne veux pas être l'élève qui critique le professeur, mais j'aurais fait un petit peu différemment, mais la discussion n'eut pas lieu, l'exposition n'a pas eu lieu, mais je pense que c'était une chose assez intéressante à faire que de regrouper comme ça, donc, mais se cantonner à un genre précis pour ne pas se disperser. Alors malgré tout, si vous voulez, dans notre panthéon, eh bien, on a tous donc, des tableaux anonymes, et je vais vous en montrer donc un ou deux. Ça, c'est un tableau du musée de Rouen. C'est un dessus de porte. C'est un tableau, mais bouleversant, de la peinture française, une peinture claire, élégante, raffinée. On est aux antipodes du caravagisme. C'est une narration des bergers, tableau anonyme, donné à Vouet, donné à Le Sueur. Et puis, un collègue du Louvre, M. Rosenberg, a eu l'idée donc, de le publier comme une œuvre de Louis Le Nain. Alors, l'attribution, vous m'avez entendu dans mon petit jargon, l'attribution n'a pas fait son chemin. Ça ne marche pas. Il a lancé l'idée comme un ballon d'essai, il n'a pas fait son chemin. Alors, quel est le déclic intellectuel? C'est que, eh bien, les Le Nain, on ne les attend pas dans cette typologie précise d'un tableau clair, un dessus de porte et religieux. Et si le tableau devient anonyme, c'est parce que le peintre, soit parce qu'il est jeune, soit pas parce qu'il a d'autres raisons, eh bien, il sort du registre dans lequel on le connaît. En d'autres termes, si vous voulez, Daumier, vous connaissez donc le monde de Daumier, des laveuses de linge, des repasseuses, des amateurs d'estampes, on connaît bien le registre de Daumier. Mais Daumier, il peut aborder un tout autre sujet où on ne le reconnaîtra pas, forcément. Alors voilà, je me suis amusé donc à mettre ce tableau anonyme et l'attribution à Le Nain a convaincu peu de monde. Un tableau très très célèbre de l'école de David, le peintre Balthus, je dois vous le dire, donc on en a parlé à plusieurs reprises, ce tableau fascinait Balthus, et un collègue du Louvre, donc M. Cusin, donc, l'attribue à un peintre belge qui s'appelle Grégorius. Donc ça c'est une attribution très remarquable, parce que on connaît un peu les élèves de David à Paris, donc on est moins, David s'exile en Belgique en 1815, je crois qu'il meurt vers 1822-23, et il a formé donc, des peintres belges néoclassiques davidiens. Et voici donc, ça c'est très intéressant parce que ce tableau, il a sa place dans l'histoire de l'art, qu'il soit anonyme ou qu'il soit de Grégorius. Et le tableau que j'avais ajouté aussi, c'est un tableau, là encore, croyez-moi, donc très très célèbre, hein, c'est la mort de Cécile, un tableau du musée de Montpellier. Allez voir ce musée qui est une véritable, allez voir et revoir Montpellier, qui est une véritable leçon de peinture, un grand tableau de 1m30 par 1m80. Cette fois-ci, on connaît la collection d'un homme que j'ai étudié, qui s'appelle le bailli, donc de Breteuil, et le tableau a été attribué tour à tour à Carache, tour à tour à Stella, tour à tour à Vuibert. Alors Vuibert, c'est un petit peintre parisien, très intéressant, mais disons pas connu comme Poussin. Et le tableau donc est totalement, malheureusement, donc anonyme. Et ça, ce tableau, il est anonyme parce qu'il est peut-être donc d'un jeune peintre et qui changera de style par la suite. Alors, je voudrais donc maintenant, pour terminer, si vous voulez, lire les passages de Jean-Pierre Changeux. C'est une leçon qu'il a donnée donc, au Collège de France sur la mémoire. L'historien de l'art, et ça nous permet donc de se quitter là-dessus donc, et de réfléchir. L'historien d'art reconnaît instantanément ce qu'il a déjà vu. Il se pique de reconnaître ce qui ressemble à ce qu'il a déjà vu. Quand il reconnaît ce qu'il n'a jamais vu, il fait preuve de génie. Quand il reconnaît ce qu'il n'a jamais vu, il fait preuve de génie. Ne soyons pas complaisants, disons, d'intuition. Et lorsqu'il se trompe, il commet ce qu'on appelle une erreur d'attribution. Deux points, elles sont légion. Le bon historien d'art a une mémoire d'éléphant, il voit juste. L'amateur de peinture se plaît à reconnaître ce qu'il a déjà vu. Le plaisir de l'historien d'art, sa jouissance et son triomphe, et de reconnaître ce qu'il ne connaît pas. Et là, Changeux fait un long développement sur un jeune historien allemand, Voss, hein, et bien qui reconnaît ce qu'il ne connaît pas. La phrase est profonde. Hein. Voss, il reconnaît et bien, l'art de Georges de la Tour, donc dans deux tableaux anonymes. Et enfin, et bien dans ce texte donc de Changeux, Changeux donne de très très belles points de vue sur l'œil, sur la science du regard, ça j'ai pas le temps de tout vous lire, sur la finesse du regard, sur l'érudition de l'œil. L'œil, alors avoir de l'œil, et le dictionnaire de l'Académie française, hein, vous remarquerez, n'a pas retenu cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire, un historien de l'art qui a de l'œil? Ça veut dire qu'il reconnaît. Un tableau anonyme, il reconnaît de qui il est. Alors Changeux parle de l'érudition de l'œil. L'œil se forme. Il y a aussi un don qui n'est pas donné à tout le monde et de la fidélité de la mémoire. La mémoire visuelle. Voilà, en d'autres termes, donc Changeux donne un petit peu donc, quelques critères donc, sur l'intuition donc, de l'historien de l'art qui peut sortir un tableau de l'anonymat. Et enfin, et j'en aurai terminé, donc je reprends ce texte de Thullier, publié donc dans les Ménages Schnapper. Schnapper est un autre historien d'art. Et voici ce qu'écrit Jacques Thullier au cours de discussion donc avec Antoine Schnapper. Et ce sera ma conclusion. L'existence d'œuvres notables. L'existence d'œuvres notables et même de chefs-d'œuvre que nous sommes toujours incapables d'insérer dans le tissu à la fois historique et géographique dont nous disposons. Œuvre sans auteur, sans école, entre guillemets, sans lieu, ni date le plus souvent, parfois sans siècle, et que l'historien craint d'approcher. Deux points. Chien perdu, sans collier. Et enfin, cette citation empruntée à un écrivain qui est un peu de cette région, donc un écrivain de La Rochelle du XIXe siècle, et qui s'appelle, donc l'écrivain s'appelle donc Fromentin. Alors je ne retrouve pas, je ne veux pas vous retarder, mais si, la voici. Je pensais ne pas la retrouver, et vous la citez de mémoire, mais la voici. Et le style de Fromentin, Dieu sait si c'est un beau style, hein, j'espère que vous avez lu hein, Fromentin. Et voici ce que écrit Fromentin. Au fond, de même que le petit maître, hein, un artiste, il y a des artistes, il y a des grands maîtres, et puis il y a des petits maîtres. Au fond, de même que le petit maître, peut-être, selon le mot du critique d'art Fromentin, l'auteur d'un chef-d'œuvre. Et voici ce qu'il écrit. Il y a dans la vie des grands artistes de ces œuvres prédestinées, non pas les plus vastes, ni toujours les plus savantes, quelquefois les plus humbles, qui par une conjonction fortuite de tous les dons de l'homme et de l'artiste ont exprimé, comme à leur insu, la plus pure essence de leur génie. Et ma conclusion, eh bien, de même, un tableau anonyme doit lui aussi pouvoir compter dans l'histoire de l'art. Et même s'il est anonyme, il doit compter dans l'histoire de l'art. Alors, il manquait ces deux reproductions. C'est un tableau du Louvre. C'est célèbre. Il y a des problèmes de génération. La tête de cire était connue par nos arrière-grands-parents. Et ça, ce tableau, il était connu aussi à la fin du XIXe. On appelle ça le dindon de Velázquez. C'est un tableau du Louvre, et c'est un tableau qui a porté pendant un siècle une attribution au grand Velázquez, un tableau sur toile de 80 par 60. Le tableau est probablement mutilé, et on le comprend mieux. Alors, c'est pas Velázquez. Le tableau est éblouissant de qualité, et on le comprend mieux si vous l'imaginez dans un grand bodégone accroché sur un mur dans la partie haute, à gauche ou à droite, et bien depuis quelques années, on le rapproche donc d'un peintre flamand actif à Florence qui s'appelle Sustermans. Ce tableau, il a fait couler beaucoup beaucoup d'encre, mais ce n'est plus donc un Velázquez. Voilà. Merci pour votre attention.